RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à l'heure où la guerre se poursuit au Soudan, le choix de nombreux Soudanais dans ce journal, malgré les dangers, des centaines d'entre eux décident de rentrer chez eux. On donnera la parole à ces déplacés. La paix dans l'est de la RDC qui reste pour l'heure en chantier. On attendait hier à Washington un avant-projet d'accord de paix, mais les négociations doivent d'abord se poursuivre et surtout aboutir. Également au menu, la journée mondiale de la liberté de la presse et la situation préoccupante du Cameroun. La politique israélienne à Gaza, devant les juges de la Cour internationale de justice. Une alerte sur une possible invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maghreb et le nord du Sahel. Et puis, un reportage à Madagascar sur les grands oubliés des travaux d'Antananarivo, la capitale qui accueillait la semaine passée un sommet de la Commission de l'océan Indien. Mais tout d'abord, cette nouvelle illustration de l'horreur de la guerre qui frappe le Soudan depuis plus de 2 ans. Au moins 27 civils ont à nouveau été exécutés à En-Nahud, selon un collectif baptisé Emergency Lawyers. En-Nahud, il s'agit d'une ville dont les paramilitaires FSR ont pris le contrôle dans le centre-ouest du pays. Un point stratégique vers le Darfour, bastion des hommes justement du général Hemeti. Mais les FSR ont récemment enregistré des revers par ailleurs. L'armée du général Al-Burhan a en effet repris le contrôle de Khartoum par exemple. Et dans ce contexte, même si les combats se poursuivent, eh bien de plus en plus de déplacés décident aujourd'hui de rentrer chez eux, dans la capitale. Ils sont des centaines chaque jour. Certains s'étaient réfugiés à Port-Soudan, qui fut la capitale temporaire pendant la guerre, et ils font à présent le chemin retour en train. Sur place, reportage de Gaël Alex.
La ligne entre Port-Soudan et At-Bara est le dernier vestige du chemin de fer soudanais. Avant la guerre, elle se poursuivait jusqu'à Khartoum. Mehdi Ibrahim Al-Khalifa charge ses valises.
Je suis à Port-Soudan en tant que déplacé. J'ai quitté Khartoum, suis passé par At-Bara, puis le nord du pays. Ma maison à Khartoum était très belle. Maintenant, j'ai tout perdu. Mais Khartoum est de nouveau sûr et je rentre pour reconstruire ma vie.
Un enthousiasme que ne partage pas Moudissir Mohamed Al-Hassan. Il retourne à Omdurman, dans la banlieue ouest de Khartoum, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Il n'y a rien à Omdurman. Pas de sécurité, pas de nourriture, pas d'eau.
Alors pourquoi est-ce que vous y retournez ?
C'est chez moi, c'est là que mes enfants vont à l'école. On va tout recommencer du début, on n'a plus rien.
Les combats qui se poursuivent dans la capitale n'inquiètent pas Daoula Kamal Saadala, qui rentre chez elle accompagnée de ses 6 enfants.
J'ai vu des photos de ma maison, elle est en désordre, mais je ne sais pas si elle est détruite. Si elle a été pillée, tant pis. Je suis restée chez moi le plus longtemps possible, même avec la guerre. Je ne suis partie qu'à cause de mon fils qui a un problème au cœur.
Le train mettra près de 12 heures à parcourir les 500 km qui séparent Port-Soudan d'At-Bara. C'est en bus qu'il faudra ensuite rejoindre la capitale. Gaël Alex, de retour de Port-Soudan, Nairobi, RFI.
La RDC et le Rwanda s'étaient engagés à rédiger un avant-projet d'accord de paix pour hier sous la médiation américaine, mais à l'expiration du délai, finalement rien. Les délégations doivent poursuivre leurs négociations sur plusieurs points. Mais ce qui va ressortir de ces discussions entre le Rwanda et la RDC et les États-Unis inquiète pour l'heure la société civile congolaise. Vous l'entendiez peut-être hier sur RFI, une quarantaine de voix, dont celle du docteur Mukwege, appelait à ne pas brader les ressources du Congo, car Washington conditionne les garanties de sécurité à des garanties de business. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille, à l'image par exemple du professeur Martin Ziakwe Lembisa de l'Université catholique du Congo. Pour lui, ce partenariat avec les États-Unis pourrait profiter pleinement à la RDC.
La captation des investissements américains contribuera à, économiquement, notamment, donner de l'emploi aux Congolais, et ça pourrait contribuer aussi à motiver davantage le gouvernement à assainir l'environnement des affaires en luttant de manière beaucoup plus rigoureuse, notamment contre la corruption. Tout cela pourrait contribuer à inciter le gouvernement à poursuivre ou même à intensifier les réformes structurelles pour remodeler l'État. Il est évident que nous allons en tirer profit. Mais en comparant la qualité de gouvernance entre le Rwanda et la RDC, il y a risque que le Rwanda puisse capter plus d'investissements américains que le Congo, alors que la grande partie de ressources attirant les investisseurs américains se trouverait au Congo. Et c'est ça toute la question. Ça signifie que la RDC n'obtiendra peut-être pas comme elle le veut la garantie sécuritaire, mais la RDC, en proposant un deal pour sa sécurité, verrait l'administration américaine la retourner contre elle en ouvrant une fenêtre, offrant assez d'opportunités au Rwanda.
L'analyse de Martin Ziako Lembisa. La journée mondiale pour la liberté de la presse en ce 3 mai. Une liberté en recul dans le monde, constat de l'ONG Reporters sans frontières. Et dans son classement annuel, on trouve le Cameroun à la 131e place sur 180. Ces dernières années, plusieurs hommes de médias camerounais ont été tués, en effet, dont Martinez Zogo. Fin mars, le Parlement européen a condamné la persécution des journalistes au Cameroun, alors que la présidentielle y est attendue en octobre. Paul Biya, 92 ans, pourrait briguer un 8e mandat. Les médias se prépare avec prudence. Thomas Atenga est professeur de communication à l'université de Douala. Il observe justement que dans ce cadre, les débats se sont aseptisés et que l'âge du président reste plutôt tabou.
Au nom du vénérable âge du candidat presque déclaré, au nom des traditions africaines où cet âge voudrait qu'il soit désormais un patriarche, il a presque une immunité de critique. Tous les médias qui se risquent encore à s'attaquer à son âge, bah même au fait qu'il veuille se représenter, évidemment, sont très vite repris par le CNC au nom du fait que le champ social doit être apaisé. On parle très peu des problèmes qui touchent la majorité des Camerounais. C'est difficile qu'il y ait un débat de fond à la fois sur la loi électorale, le système électoral. Il y a quelques médias qui s'y risquent, mais qui sont tout de suite estampillés, proches d'une certaine opposition, entre guillemets. Pour reprendre l'expression d'un chanteur camerounais, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Ceux qui participent de l'autocensure, qui est aujourd'hui une pratique assumée de beaucoup de journalistes camerounais.
Les mots de Thomas Atenga au Cameroun. L'affaire de l'aide humanitaire de Gaza, mise en délibéré hier soir par la Cour internationale de justice. Pendant une semaine, 40 pays, 3 organisations sont venus plaider devant les 12 juges de La Haye. Ces derniers doivent désormais rendre un avis juridique sur les obligations légales d'Israël vis-à-vis des Nations Unies et des organisations qui fournissent l'aide humanitaire à Gaza. Alors que l'État hébreu bloque depuis 2 mois l'accès de l'aide humanitaire sur place. Stéphanie Maupas, pour ces audiences, la parole était donnée à l'Union africaine.
C'est l'Union africaine qui a refermé cette longue semaine de plaidoirie. Pour faire valoir ses arguments, la conseillère juridique de l'organisation continentale, la professeure Ager Geldish, a notamment évoqué devant les juges le drame de Gaza depuis le blocage de l'aide par Israël le 2 mars.
Quels seraient les mots justes pour qualifier le drame humain d'une population entière qui, depuis la fin du cessez-le-feu, c'est-à-dire plus de 60 jours maintenant, est privée d'eau, de nourriture, de carburant, d'aide médicale, de vaccins pour les enfants. Surtout que 3000 camions chargés d'aide humanitaire sont bloqués par Israël aux portes de Gaza.
Comme l'ont dit de nombreux pays, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, les Comores ou encore la Namibie, l'organisation continentale estime qu'Israël a l'obligation de laisser passer l'aide humanitaire, de ne pas entraver le travail de l'UNRWA et des autres organisations. L'Union africaine a aussi demandé aux juges de rendre leur décision au plus vite. Stéphanie Maupas, La Haye, RFI.
C'était déjà la 8e plaie d'Égypte, à en croire la Bible. En tout cas, les dégâts que peuvent causer les criquets pèlerins sur les récoltes ne sont plus à démontrer. Et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, tire à nouveau la sonnette d'alarme sur un risque d'invasion dans le sud du Maghreb et le nord du Sahel. Depuis quelques semaines, des essaims se développent. 6 pays touchés au total, dont la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, qui ont déjà commencé à pulvériser des pesticides. Une prolifération due au climat notamment, mais pas uniquement, selon le prévisionniste Cyril Piouf. Il met en cause l'insécurité également.
La situation de cette année est liée aux très bonnes pluies qui ont eu lieu dans tout le Sahel, et surtout dans le nord du Sahel, en août et septembre dernier. Et ces très bonnes pluies ont généré de la végétation dans des endroits qui habituellement reçoivent très très peu de pluie à cette période. Et cette végétation a permis aux criquets de se multiplier pendant plusieurs mois, assez tranquillement on va dire, puisqu'ils étaient dans des endroits difficiles d'accès et majoritairement avec des problèmes de sécurité pour y accéder. Et ces groupes ont petit à petit migré vers le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, en décembre-janvier. Ils ont pu se reproduire dans ces endroits-là aussi parce qu'il y avait eu des très bonnes pluies aussi dans ces endroits-là en septembre. Donc les conditions étaient idéales pour qu'ils puissent se reproduire. Et donc là, on arrive au printemps avec des populations qui sont déjà assez haut niveau en termes d'effectifs et des groupes qui sont remontés jusqu'en Tunisie. Et ça s'était pas vu depuis une vingtaine d'années.
L'analyse de Cyril Piou, prévisionniste à la FAO. À Madagascar, que reste-t-il après les grands travaux menés tambour battant à Antananarive, la capitale qui accueillait la semaine dernière un sommet de la Commission de l'océan Indien? Des travaux ont été faits pour cela. Mais une fois le faste du cérémonial passé, eh bien de nombreux habitants déplorent que seul le centre-ville se soit refait une beauté et non les quartiers périphériques. Guilhem Fabry.
Seule une poignée de passages sécurisés traverse le quartier d'Ondavamombe, construit sur des marais et systématiquement inondé en saison des pluies. Comme la plupart de ses voisins, Radav, 23 ans, doit emprunter une passerelle en bois étroite et instable au-dessus de l'eau pour rejoindre sa maison.
Avec mon mari, nous ne pouvons pas sortir tous les deux chercher de l'argent en même temps, parce que sans nous, nos enfants pourraient tomber et se noyer. On devrait d'abord commencer par aménager les bas quartiers, mais ils ont préféré améliorer ce qui est déjà très bien. Le président doit voir ce qui se passe ici. Il a été élu grâce à nous. On a l'impression d'être oublié et exclu.
Monsieur Soave, 71 ans, porte lui aussi un regard très sévère sur les travaux menés récemment autour de l'avenue de l'Indépendance.
Pourquoi un seul homme, Monsieur Macron, vient ici, on fait tout, il mobilise tout, de l'argent, les personnels, les hommes, tout. Il cache notre pauvreté, ça m'affecte beaucoup, hein. C'est de l'hypocrisie.
La maire d'Antananarive, Arlal Ramanantsou, promet que les efforts de rénovation et d'aménagement entamés il y a quelques semaines ne sont qu'un début et que les 6 arrondissements de la capitale en bénéficieront. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Antananarive, où il est 10h, bientôt passé de 42 minutes. Notre matinale se poursuit. Restez avec nous, vous retrouvez Julien Coquel-Rohem.